France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour consacré au Val d'Oise dans les carnets de campagne avec toujours des initiatives et des solutions dans ce département d'Île-de-France. Aujourd'hui, on s'intéresse à un parc de 4 hectares dans lequel vivent 250 animaux, principalement des oiseaux et des primates qui sont toutes des espèces menacées. Le CAVEX, Conservatoire des animaux en voie d'extinction, existe depuis 25 ans au Ménil-Aubry. Son créateur vient de mourir et se pose aujourd'hui la question de la pérennité de ce parc. Mais d'abord, la parole est à une association qui monte, qui monte, qui monte. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
S'il y a bien un sujet qui mérite de la vulgarisation, des explications accessibles à tout le monde et notamment aux jeunes, c'est le droit. Voilà la mission que s'est donnée une association qui œuvre dans toute l'Île-de-France et qui propose des articles sur les réseaux sociaux ou encore des ateliers pour que les jeunes connaissent leurs droits. Elle s'appelle Droit dans les yeux et elle est basée à Cergy dans le Val-d'Oise. Bonjour Inès Haribi.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la vice-présidente de Droit dans les yeux. Et je veux d'abord vous dire bravo, puisque vous avez reçu un prix très récemment, le prix social des génies de l'ascenseur. Alors l'ascenseur, c'est un collectif associatif consacré à l'égalité des chances et à la jeunesse. Son nom, bien sûr, est un clin d'œil à ce fameux ascenseur social dont on dit souvent qu'il est en panne. Vous avez 23 ans, Inès, vous êtes étudiante. En droit, pardi. Quel a été le point de départ de cette association? D'où est venue cette idée?
Le point de départ de cette association, c'était de réaliser que de nombreux jeunes, et majoritairement ceux qui sont issus de quartiers populaires, n'ont pas les mêmes connaissances que d'autres personnes au sein de la société sur leurs droits, et donc n'ont pas accès forcément aux recours, ne savent pas bien comment se défendre dans des situations de vulnérabilité, et n'ont pas forcément recours aux aides sociales également. Et nous, on souhaitait pallier ces inégalités en proposant des formats ludiques qu'on a imaginés assez fun, on essaye d'y incorporer de la culture populaire, des références qui sont accessibles, et donc on est majoritairement sur les réseaux sociaux et dans le cadre d'ateliers.
Alors comment ça se passe très concrètement, vos ateliers avec Droit dans les yeux?
Très concrètement, on travaille avec d'autres associations qui en général ont des jeunes comme bénéficiaires et qui nous proposent des ateliers souvent dans leurs locaux. Et donc on va suivre un groupe de jeunes sur un après-midi. La thématique sur laquelle on travaille le plus, c'est contrôle d'identité, contrôle dans les transports et droit pendant la garde à vue. Et donc dans le cadre de ces ateliers, on va faire des quiz, on va faire des jeux, on va tester leurs connaissances, mais de manière fun, on va essayer de stimuler l'esprit de compétitivité, on va essayer de faire des blind tests avec des paroles de rap qui parlent beaucoup de police, de contrôle d'identité, etc., pour essayer d'expliquer tout ça. Et on essaye en fait de permettre à ces jeunes de partir de l'atelier en ayant compris leurs droits et en pouvant mieux se défendre. On leur parle des recours, on leur parle beaucoup notamment des saisines du défenseur des droits qui sont accessibles en 2-3 clics en ligne par le biais d'un formulaire. On leur parle de l'accès à un avocat à l'aide juridictionnelle, chose que les jeunes ne connaissent pas forcément. On peut bénéficier d'un avocat gratuitement ou quasi gratuitement en fonction de nos ressources. On leur parle également de faits sur le droit, par exemple dans le cadre des contrôles d'identité. En France, on n'est pas obligé de sortir avec ses papiers d'identité.
Ça, c'est très peu connu. Hein.
C'est très
ça
peu connu.
Ça n'est pas obligatoire d'avoir ses papiers sur soi.
Mais évidemment, ça contient des risques. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'expliquer les faits. Mais on revient toujours au principe de réalité. On leur dit, mais si vous n'avez pas vos papiers d'identité, on peut quand même vous les demander. Vous ne pouvez pas les présenter. On peut vous emmener au commissariat pour faire un relevé d'identité. C'est quand même assez contraignant, donc mieux vaut les avoir sur vous. Donc on explique en fait, et en même temps on nuance nos propos et on essaye de faire vraiment de la prévention en fait et de l'alerte.
Vous diffusez aussi, on le disait, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, là aussi pour faire passer un message. Quels sont les retours en général?
En général, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux concernant des thématiques qui touchent beaucoup les jeunes. Donc ça peut être par exemple les droits quand on est stagiaire, les droits quand on est alternant, donc tout ce qui va être contrat de travail, mais spécifiquement pour des jeunes. On reçoit aussi beaucoup de questions en lien avec le droit des étrangers. On essaye d'être une première porte d'entrée vers le droit et majoritairement d'orienter. Donc on va orienter vers des points d'accès au droit, on va orienter vers des délégués du défenseur des droits, on va orienter vers des avocats à l'aide juridictionnelle. On donne quelques petits conseils également, mais on prend pas la place des professionnels du droit, c'est pas notre but. Notre but, c'est plutôt d'être une plateforme d'accessibilité. Et quand on a la réponse, parce qu'on a quand même des élèves avocats dans nos effectifs, on donne la réponse, on a certaines certitudes, mais on essaye de laisser aussi les professionnels du droit répondre à ces questions.
Ce prix des génies de l'ascenseur remis à votre association Droit dans les yeux, c'est une belle reconnaissance pour vous ?
C'est une magnifique reconnaissance même. Donc c'est un collectif avec lequel on est vraiment ravis de travailler, qui nous propose un accompagnement sur mesure, qui nous envoie très régulièrement des opportunités, qui nous a aussi donner une enveloppe pour commencer à se financer un petit peu, c'est important. Et surtout, au niveau des valeurs, on est très alignés avec l'ascenseur. On a conscience, en fait, du constat de l'inégalité des chances. Nous, on le voit par le prisme de l'accès au droit. Et on espère que c'est un partenariat qui va durer.
Est-ce que vous avez en tête un souvenir récent, un moment où vous avez particulièrement réalisé cette inégalité des chances en matière d'accès au droit ?
Un événement récent, c'était dans le cadre d'un atelier. Mmh. On a reçu plusieurs jeunes, dont une jeune qui était en pleine démarche pour obtenir sa nationalité française et pour qui la demande a été refusée au niveau de la préfecture et qui ne savait pas comment faire un recours. Donc elle a simplement envoyé un mail avec des arguments à la préfecture en disant « voilà, c'est ça mon recours ». La préfecture, de manière quand même assez pédagogue, lui a répondu en lui disant non, il faut s'orienter vers le tribunal administratif. Et elle ne sait pas former un recours devant le tribunal administratif, évidemment. Enfin, elle a 18 ans, on lui a pas appris ça à l'école. Et elle ne savait pas non plus qu'elle pouvait bénéficier d'un avocat gratuitement, donc elle était sur le point d'abandonner, en fait. Mmh. On l'a orientée vers la liste des avocats à l'aide juridictionnelle, notamment un qu'on connaissait personnellement, spécialisé en droit des étrangers et de la nationalité. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de travailler à son recours et cette jeune femme pourra potentiellement accéder à la nationalité française si son recours marche. Et ça aurait été vraiment dramatique d'abandonner parce qu'on n'est pas renseigné en fait sur les outils dont on peut disposer en France.
Vous disiez à l'instant, on n'apprend pas ça à l'école. Est-ce que l'école a des efforts à faire, à votre avis, en matière d'accès aux droits et d'information des jeunes sur leurs droits ?
Selon nous, à Droit dans les yeux, on dit souvent que normalement on ne devrait pas exister. Puisque notre mission, en fait, c'est pallier un manque. On devrait pouvoir apprendre au collège ou au lycée au moins les bases du droit pour partir, en fait, avec quand même des ressources qui peuvent être enseignées par les parents quand ils s'y connaissent un petit peu, qui peuvent être enseignées dans le cadre d'études supérieures. Mais tout le monde ne bénéficie pas de cette chance. Et nous, on aimerait bien plus tard ne plus avoir à poster des articles dans lesquels on dit « vous avez le droit au RSA » ou dans lesquels on dit « quand vous êtes alternant, vous avez aussi ces droits-là, il ne faut pas les négliger ». On aimerait bien que ce soit de notoriété publique, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, en fait. On se positionne pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Inès ?
Ce qui me rend fière, c'est de voir que notre initiative trouve vraiment son intérêt. Ce qui me rend fière, c'est de voir qu'on nous accorde aujourd'hui un peu de légitimité à parler de certains sujets. On a eu l'opportunité d'être auditionné par le Conseil de l'Europe dans le cadre d'un rapport sur la police. On commence à nous faire confiance un petit peu sur certains sujets pour nous exprimer, pour expliquer ce qu'on voit sur le terrain quand on rencontre des jeunes en atelier qui nous expliquent des problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans le cadre de contrôle policier, par exemple, et qu'on peut à la fois combiner nos activités de terrain et un plaidoyer plus large sur l'accès aux droits. Et c'est ça qui me rend fière. On sert une cause qui nous tient à cœur.
Droit dans les yeux, association lauréate du prix du projet social, récemment décerné donc par les génies de l'ascenseur. Merci beaucoup Inès Haribi.
Merci.
Et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Au Ménil-Aubry, dans le Val-d'Oise, il y a un grand parc dans lequel vivent des animaux, des oiseaux et des primates notamment. Mais ce parc n'est pas un zoo. D'ailleurs, il n'est pas ouvert au public. Il s'agit d'un conservatoire qui entend protéger des animaux menacés. Le CAVEX, Conservatoire des animaux en voie d'extinction, a été créé il y a 25 ans par un couple de passionnés, Lily et Henri Quinck. Et la pérennité de ce conservatoire aujourd'hui est menacée, faute de repreneurs. Bonjour Michel Montaldo.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin à la retraite, administrateur bénévole du CAVEX. Un petit inventaire des animaux qu'on y trouve ?
Alors on y trouve entre autres, qui est l'animal emblématique de l'association, le fameux cagou de Nouvelle-Calédonie, qui est un oiseau qui a comme particularité donc de ne pondre qu'un seul œuf par an et qui justement est en grande difficulté, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Et le docteur Quinck possédait pratiquement la plus grande collection de cagous, plus de 40 animaux aujourd'hui qui continuent de se reproduire. Après, vous avez d'autres animaux. Dans les primates, vous avez ce qu'on appelle les singes lions à tête dorée. Ce sont des petits primates qui viennent d'Amérique du Sud, dont nous avons un nombre aussi important et qui eux aussi se reproduisent. Nous avons des grues couronnées, des grues de paradis, des perroquets, si vous voulez, mais il y a d'autres animaux, mais je ne vais pas non plus vous faire un inventaire complet.
Henri Quinck, qui était aussi médecin, qui est le créateur de ce parc, est décédé récemment. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Le parc cherche un repreneur, c'est ça ?
Alors non, c'est pas exactement qu'on cherche un repreneur. Monsieur et Madame Quinck n'ayant pas d'héritier, le jour où Madame Quinck disparaîtra, eh bien, si nous n'avons pas été capables de retrouver les financements pour faire vivre ce conservatoire, tout partira à l'État. C'est-à-dire que les animaux seront dispersés et le lieu sera propriété de l'État et vendu à qui voudra l'acheter. Or, pour nous, ce serait une perte, si vous voulez, à la fois d'un lieu remarquable et surtout d'une expérience remarquable, puisque depuis tant d'années, le personnel soignant, avec M. Quinck, connaissent parfaitement les animaux, le mode de vie, leur alimentation, leur maladie, leur mode de reproduction. Et il y a un savoir-faire important qu'il serait vraiment dommageable de perdre. Et c'est en cela que, si vous voulez, la plupart des bénévoles travaillent. Il faut absolument qu'on trouve, via le mécénat, via différents financements, la possibilité de continuer cette œuvre-là en essayant, en parallèle de cela, de s'inscrire dans un réseau de parcs animaliers pour, si vous voulez, faire bénéficier un petit peu du savoir-faire et surtout de ne pas le perdre.
Les animaux qui vivent au CAVEX n'ont pas vocation à être relâchés dans la nature, je crois. Est-ce qu'il n'est pas un peu problématique de mettre sous cloche, si je puis dire, des animaux sauvages menacés d'extinction, si loin de leur environnement naturel ?
Alors, si vous voulez, le docteur Quinck serait vivant, il vous aurait expliqué comment il a pu, si vous voulez, arriver à entretenir ces animaux et surtout à les recevoir. Il y a eu, par exemple, un contrat passé avec un petit État qui a permis de recueillir certains animaux pour permettre à ces animaux de se reproduire avec, pourquoi pas, effectivement, la possibilité d'un programme de réinsertion ultérieure. Cet État s'appelle l'État de Saint-Vincent. On nous a confié des oiseaux de Saint-Vincent qui se sont reproduits sur place. Et donc, il faudrait qu'on retrouve, si vous voulez, la possibilité justement de collaborer pour faire des programmes de réinsertion en milieu naturel. Mais ça, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine et c'est un objectif de moyen terme. Pour vous donner un exemple, si vous voulez, de la façon dont M. Quinck a construit sa collection privée.
D'accord, mais donc c'est bien une collection privée. L'ambition, ce n'est pas non plus de réintroduire les espèces sauvages dans leur milieu. Comment penser qu'ils ne vont pas perdre la capacité à s'adapter à leur environnement ?
Alors, si vous voulez, là maintenant, maintenant que M. Quinck a disparu, tout le travail du bureau du conservatoire va œuvrer en ce sens. D'une part, maintenir une expertise scientifique, maintenir le patrimoine génétique de ces animaux, et voir effectivement comment nous pouvons nous lancer dans une réinsertion en milieu naturel, car ça c'est très important pour nous. On a bien cette notion-là. Pour ne rien vous cacher, le monsieur Quinck aimait beaucoup cette collection, et du fait de son grand âge, il a été un petit peu dépassé par les événements, et il n'a pas eu le temps véritablement d'imaginer cette contribution à la sauvegarde en milieu naturel. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail-là, justement.
Ce travail, donc, de vous tourner vers les pays concernés, les milieux naturels de ces animaux menacés d'extinction pour travailler avec eux.
Oui, pour vous donner un exemple précis, ces derniers mois, nous avions repris contact avec un sénateur de Nouvelle-Calédonie qui était du reste venu sur place visiter le lieu et on avait commencé à évoquer justement le problème du cagou et de voir comment nous pourrions avancer dans ce domaine-là, avec malheureusement ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est pas évident. Mais bon, c'est pratiquement aujourd'hui un des axes de travail que nous entendons mener. Si nous parvenons, on revient toujours à la même chose, à avoir les financements, puisqu'il faut 300 000 euros annuels pour faire fonctionner ce conservatoire. Et c'est jusqu'à présent, c'était les époux Quinck qui, sur leur bien personnel, leur fortune personnelle, assumaient pratiquement cette dépense-là.
Le CAVEX, Conservatoire des animaux en voie d'extinction, c'est donc au Ménil-Aubry, dans le Val-d'Oise. Merci beaucoup Michel Montaldo.
Merci madame de votre écoute, merci beaucoup.
Et je remercie toute l'équipe des Carnets de campagne, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation des émissions, Adèle Caglar à la technique.